Le mot français justice vient du latin justitia, qui a le même sens qu'en français, et ce mot est lui-même formé à partir du radical jus, qui signifie l'ordre ou le commandement impératif de faire quelque chose. Alors la justice peut être définie de deux manières, soit au sens moral, en tant que vertu individuelle ou disposition de l'être humain à agir conformément aux lois de la raison universelle. En ce sens, on parlera par exemple d'un homme juste. Et deuxièmement, la justice peut être définie au sens juridique et politique, en tant que mode d'organisation de la vie collective conforme à un ensemble de principes et de lois qui sont propres à une société donnée. En ce sens, on parlera par exemple de l'institution judiciaire qui est susceptible donc de rendre la justice, c'est-à-dire par exemple des décisions de justice. Dans le premier sens, la justice désigne ce qu'un homme s'estime légitimement en droit de faire, de par sa raison ou sa conscience individuelle. Dans le second sens, la justice désigne ce qu'un homme est légalement autorisé à faire ou à ne pas faire, ce qui est autorisé ou interdit par la loi de tel ou tel pays. Les philosophes utilisent une terminologie spéciale pour distinguer ces deux sens du mot justice. Ils parlent de droit naturel, d'une part, pour désigner le sens moral, la légitimité d'une action, et de droit positif, d'autre part, pour désigner le sens juridique ou la justice légale autorisant telle ou telle action. L'un des principaux problèmes philosophiques tient ici au fait que ces deux dimensions de la justice, donc la légitimité ou la légalité, sont à la fois bien distincts, voire parfois opposés, mais qu'ils sont également interdépendants et même, en un sens, parfaitement indissociables. En effet, si chaque homme est en mesure de déterminer individuellement, par lui-même, au moyen de sa raison et de sa conscience, ce qui lui paraît juste ou injuste, ce qu'il est en droit de faire ou non, la vie en société requiert nécessairement l'institution de normes collectives de justice qui peuvent refléter les conceptions individuelles, mais qui peuvent aussi, à l'occasion, s'y opposer. Le problème philosophique de la justice est donc le suivant, et se présente sous la forme d'une contradiction. D'un côté, il n'est pas souhaitable que les individus obéissent aveuglément aux institutions juridiques et politiques de leur pays, mais ils doivent au contraire détenir par devers eux le droit de les juger et même de les contester au besoin, et ce, afin de pouvoir y consentir librement. C'est le cas notamment dans un régime politique qu'on appelle à la fois démocratique et libéral. Mais d'un autre côté, il ne serait pas possible de concevoir une société dans laquelle chacun serait le seul juge des lois auxquelles il consent à obéir ou non. Parce que dans cette hypothèse, l'ordre juridique et politique n'aurait tout simplement plus aucune consistance, il perdrait toute autorité et toute valeur. Autrement dit, l'ordre juridique et politique impose certaines limites à l'exercice de la liberté individuelle. Donc c'est à partir de cette interrogation fondamentale que plusieurs questions pourront se poser et être donc traitées. Premièrement, a-t-on le droit de s'opposer à la loi? Deuxièmement, vaut-il mieux commettre ou subir l'injustice? Troisièmement, la justice peut-elle s'accommoder des inégalités? A-t-on le droit de s'opposer à la loi? Pour traiter ce sujet, je voudrais me référer au dialogue de Platon qui s'intitule Criton, dans lequel Socrate dialogue avec son ami, qui a donné son nom au dialogue, au sujet de la question de savoir si l'individu a le droit ou non de désobéir aux lois, même quand celles-ci lui semblent injustes. Pour être plus précis, il convient de rappeler le contexte historique dans lequel s'inscrit ce dialogue. Socrate vient d'être condamné à mort à l'issue de son procès devant les juges d'Athènes. Nous sommes en 399 avant Jésus-Christ, et il refuse l'offre de son ami Criton, qui lui propose de l'aider à s'enfuir pour échapper à la sentence, arguant du fait qu'il serait injuste de fuir la justice de l'État athénien sous l'autorité duquel il s'est placé durant toute sa vie. La position de Socrate est donc la suivante. S'il est d'accord avec Criton pour dire que la sentence de mort prononcée par les juges athéniens à son encontre est injuste, il n'en conclut cependant pas qu'il serait juste de désobéir à cette sentence, mais au contraire que son devoir est d'obéir à la justice athénienne. Tel est l'enseignement contenu dans la célèbre prosopopée des lois du Criton, ce passage où Socrate laisse parler les lois elles-mêmes au travers de sa bouche, comme si elles étaient personnifiées. Au fond, le philosophe Socrate estime que la seule manière juste de s'opposer à l'institution judiciaire, lorsque celle-ci commet une erreur ou une faute, est de pratiquer la philosophie comme il l'a fait durant toute sa vie, c'est-à-dire de chercher à convaincre ses interlocuteurs ou son auditoire au moyen du discours ou du dialogue, afin de tenter de changer leur point de vue sur ce qui est juste et injuste, et, par suite, de les inciter à changer les lois ou les institutions afin de les améliorer, de les rendre plus conformes au véritable sens de la justice. Autrement dit, Socrate conçoit la philosophie comme une entreprise visant précisément à lutter contre les injustices légales en essayant d'instiller dans l'esprit des hommes un certain esprit de justice en tant que vertu morale individuelle. Pour preuve, dans l'Apologie de Socrate, un autre dialogue un autre texte de Platon plus exactement, Socrate justifie en ces termes le choix de la vie philosophique qui fut la sienne. Je cite « Il faut absolument, quand on veut combattre réellement pour la justice et si l'on veut vivre quelque temps, se confiner dans la vie privée et ne pas aborder la vie publique. » Deuxième question. Vaut-il mieux commettre ou subir l'injustice? Alors, je partirai évidemment d'une citation. « Il vaut mieux subir l'injustice que la commettre. » Cette citation fait directement référence à un autre dialogue de Platon qui s'intitule « Gorgias », dans lequel Socrate, au cours d'un dialogue avec les disciples du célèbre sophiste qui a donné son nom au dialogue, donc Gorgias, affirme crânement, si je puis dire, qu'il vaut mieux subir l'injustice que la commettre. Ce dialogue est intéressant car il confronte deux conceptions antagonistes de la justice. L'une, qui se fonde sur une vision radicalement individualiste et utilitariste de la société, grosso modo c'est celle des sophistes, et l'autre, qui se fonde sur une vision résolument collective et morale, c'est-à-dire celle du philosophe Socrate. Calliclès, qui est l'un des interlocuteurs de Socrate dans le dialogue et qui est aussi un disciple de Gorgias, se rebiffe en quelque sorte contre une telle affirmation qui est jugée par lui à la fois inepte et même scandaleuse. Calliclès, en effet, estime que la nature est gouvernée par la loi du plus fort et que cette loi correspond à la vraie justice. De plus, les lois instituées par les hommes et visant à protéger les plus faibles seraient, selon lui, parfaitement injustes. Que les plus forts écrasent les plus faibles est donc, selon Calliclès, conforme à la loi de la nature et ainsi parfaitement juste. Autrement dit, la justice consisterait pour chacun, si l'on en croit Calliclès, à désirer et à se donner les moyens de satisfaire ses désirs individuels, quelles qu'en soient les conséquences pour les autres. Mieux vaut donc commettre l'injustice que la subir. C'est ce qu'affirme Calliclès. Socrate, on peut s'en douter, n'est pas du tout d'accord avec la thèse de Calliclès. Le philosophe montre en effet que ni les désirs ni la force ne permettent de définir ce qu'est réellement la justice, car on peut désirer des choses justes ou injustes, et on peut aussi posséder les moyens d'obtenir ces choses. Or, ces moyens peuvent être à leur tour soit justes, soit injustes. Socrate énonce en outre sa propre conception de la justice, selon laquelle un homme juste est un homme qui peut vivre en accord ou en harmonie avec soi-même, aussi bien d'ailleurs qu'avec les autres. Ainsi, Socrate entend montrer que la justice, au sens juridique et politique, doit être fondée sur une vertu morale et individuelle de justice. Le respect de soi-même et le respect d'autrui ne font qu'un, dans la mesure où il est question, dans les deux cas, de respecter universellement la personne humaine en tant qu'être de raison. Troisième et dernière question, la justice peut-elle s'accommoder des inégalités? Le problème des inégalités économiques et sociales touche à la question de ce que l'on appelle la justice sociale. Ce problème intéresse les philosophes dans la mesure où il touche à des questions non seulement économiques et sociales, mais aussi juridiques et politiques. Le philosophe Aristote avait déjà abordé cette question dans son Éthique à Nicomaque au chapitre 5, consacré précisément à la question de la justice. Dans ce passage, il distingue entre autres sens du mot justice, puisque rappelons que pour Aristote, le mot justice peut se dire en plusieurs sens. Aristote donc distingue deux sortes de justice. L'une, qu'il appelle commutative, qui concerne les contrats et les échanges, et qui est basée sur le principe de stricte égalité et de réciprocité entre les personnes. L'autre principe de justice, dite distributive, concerne la répartition sociale des charges, des dignités et des avantages économiques. Or, elle est basée sur le principe de proportionnalité. Chacun doit recevoir non pas la même chose que tous les autres, mais chacun doit recevoir à proportion de son mérite. En vertu de l'adage, la justice attribue à chacun ce qu'il mérite. Contrairement à la pensée antique qui fonde les inégalités économiques et sociales dans un ordre des choses, qui est considéré à la fois comme naturel et juste, La pensée juridique et politique moderne tend à considérer la justice selon le seul principe d'égalité, en rejetant les inégalités économiques et sociales comme contraires à la justice. Ainsi, par exemple, le philosophe Jean-Jacques Rousseau a fait la genèse des inégalités sociales et économiques en dénonçant leur injustice dans son célèbre ouvrage « L'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes » publié en 1755. Toutefois, la pensée juridique et politique moderne n'a pas entièrement renoncé à l'idée antique selon laquelle la justice peut non seulement s'accommoder des inégalités, mais également exiger que l'on traite les hommes de façon inégale en proportion de leurs mérites. J'en veux pour preuve et pour exemple l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Puisque ce texte, à l'article 1 donc, affirme deux principes. Premièrement, phrase bien connue, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Mais le même article dit également, et c'est la deuxième phrase qui est souvent moins citée et moins connue, toute distinction sociale ne peut être fondée que sur l'utilité commune. Autrement dit, si le premier principe garantit l'égalité de tous les citoyens devant la loi, le second principe indique que la justice et le droit sont parfaitement compatibles avec l'existence d'inégalités économiques et sociales, pourvu que celles-ci puissent profiter à l'ensemble de la société, dans la mesure où elles sont la conséquence du travail, de la production et de l'échange des richesses. Concluons. L'idée de justice recouvre deux réalités distinctes. D'une part, une vertu morale individuelle qui relève de la raison et de la conscience de chacun. D'autre part, un ordre social, juridique et politique qui impose des contraintes à l'exercice de la liberté individuelle. Si ces contraintes peuvent parfois sembler injustes, elles n'en paraissent pas moins nécessaires pour assurer la coexistence des hommes au sein d'une même collectivité. De sorte que l'on ne saurait absolument opposer les deux dimensions de la justice que l'on vient de distinguer, mais que l'on doit au contraire tenter de penser leur inévitable interdépendance et leur indispensable complémentarité.